Joie, 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 joie d'être presque animal le matin. Courir, courir comme un cheval fou dans les forêts touffues. Offrir son lait comme une vache aux jolies pies. Donner ses œufs comme une poule qui cocotte. Donner son mouton, sa laine, comme un mouton là-haut. Et puis cacaber comme une perdrix en joie, ululer comme une chouette qui va se coucher, faire tous ces bruits d'animaux que nous connaissions enfants, que nous avons oubliés. Oh, joie de la langue française. Et puis, le 21e siècle sera animal ou ne sera pas. Animal, on est mal. Il est 7h, presque 7h01.
Oui. Bonjour. C'est très cohérent.
Merci François. Ça tombe bien, c'est Thierry Paré. Oui, c'était parce que j'étais parti dans une direction.
De morts et de gros dégâts matériels. C'est le bilan de la tempête Zeus qui a donc traversé la France hier. Les deux victimes ont été écrasées par des arbres alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule. Plusieurs centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité, au moins 600 000. Hier, il y en a encore 250 000 ce matin. La fin de la forte tempête hivernale est prévue à 10h ce matin. Du moins, l'alerte est prévue. La fin de l'alerte est prévue à 10h. Scénario macabre pour un héritage mal réparti. Disparu depuis la mi-février, le couple Troadec et leurs deux enfants ont été tués par l'ex-beau-frère du père de famille. Ce dernier a été écroué après avoir avoué ce quadruple meurtre. Est-ce la fin de la crise chez les Républicains ?
Oui, c'est une question que vous posez ?
Et à laquelle je vais répondre.
Ah d'accord, pardon.
Enfin non, je ne veux pas vraiment y répondre en fait. Non, elle est ouverte. Elle est ouverte, t'as raison. Le comité politique du mouvement, donc composé notamment de Gérald Darmanin, a renouvelé hier soir à l'unanimité son soutien à François Fillon. C'est un tournant de plus dans la campagne du candidat de la droite. Hier matin, Alain Juppé avait redit qu'il ne fallait pas compter sur lui pour jouer au plan B, tout en ayant des mots très durs pour François Fillon, dont il a critiqué l'obstination et la radicalisation. Les partisans d'Alain Juppé vont se réunir aujourd'hui au Sénat autour de Jean-Pierre Raffarin.
Il a parlé de la radicalisation des supporters réunis. Attention de ne pas déformer les propos de mon petit Alain Juppé. Il n'a pas parlé de Fillon, il n'a pas dit que Fillon était radicalisé. Attention.
Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire. Alors ce dernier entrera en vigueur le 16 mars. C'est une version remaniée du tristement fameux décret migratoire qui a été suspendu par la justice. Si les ressortissants irakiens ne sont plus concernés par ce nouveau texte, en revanche, ceux de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Yémen sont toujours ciblés par cette interdiction d'entrée sur le territoire. À l'exception, et ça c'est nouveau aussi, des détenteurs de visas et de cartes vertes. Les deux enfants de l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner ont été convoqués devant la justice à Buenos Aires hier pour s'expliquer dans le cadre d'une affaire de corruption présumée qui vise en fait toute la famille.
Il y a des villes, vous aimez bien les dire dans leur langue natale et d'autres vous vous en foutez.
C'est bizarre. Hein.
C'est bizarre, cette manie chez les journalistes de prendre des accents.
Les salariés du secteur de la santé, du public comme du privé, sont appelés à faire grève aujourd'hui. Une grève, c'est l'intersyndicale qui appelle à faire grève, c'est FO-CGT SU en l'occurrence, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les infirmiers salariés et libéraux participent également au mouvement. Il y avait une première journée d'action le 8 novembre qui avait plutôt bien fonctionné, celle d'aujourd'hui s'annonce aussi très suivie avec beaucoup d'initiatives en région et beaucoup de manifestations, notamment une du côté de Paris. Et puis imaginez, enfin si vous le pouvez, un iceberg de 5000 km², soit 50 fois la taille de Paris, ou la dimension du Jura, si ça vous parle plus, eh bien ça pourrait bien arriver. Et plus vite qu'on ne le croit, il y a plusieurs années, des scientifiques ont observé une fissure en Antarctique, une fissure qui s'élargissait lentement chaque année un peu plus. Seulement voilà, le processus est brutalement accéléré au mois de décembre. La fracture s'étend désormais aujourd'hui sur 80 km, il n'en reste plus que 20. On ne sait pas si le phénomène est dû au réchauffement climatique, mais évidemment, on le suppose.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça nous a plu, tout ça ? François Rollin, vous réveillez...
Oui, ça a commencé un petit peu douloureusement, quand même, avec ces histoires de Troadec.
Oui. Ça, c'est pas vous n'êtes pas lié à cette... Vous
n'avez rien à voir avec non. Tout ça. Non, ensuite... Moi, ce qui me frappe le plus, Edouard, dans cette histoire-là, d'ailleurs, c'est que le gars, donc, en question, l'assassin, il s'est donc dit qu'il ne se ferait pas prendre. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas la télévision. Il regarde pas les films policiers à la télévision, qui lui auraient montré qu'il y a absolument aucune chance, pas une sur 5 milliards de milliards, qui passe au travers. Et pourtant, il reste là en attendant. C'est bizarre, la psychologie des gens. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait après ça?
Continue.
Alors, je ne me rappelle plus très bien comment fonctionne l'émission, parce que je suis beaucoup en déplacement internationaux.
Alors, c'est de 7h à 9h.
D'accord.
Voilà.
Oui, c'est bien. Pas toujours, Armel. Hein. Quand Edouard n'est pas là, il y a des moments à 8h30 au pli-boutique. Hein.
Il paraît qu'il y a beaucoup plus de pubs quand je ne suis pas là, qu'il y a des morceaux musicaux que je n'aurais pas choisi. Et ensuite, mais par exemple, après le journal...
Qui dénonce exactement?
Quel est l'usage après le journal?
La pub.
Ah, c'est bien. Voilà. J'aime ça.
7h, 9h, plus près de toi.
Il y
il y a du comblage, il y a des trucs très bizarres à l'antenne. François Rollin, juste avant ces bruits de marché pour combler, je vous sentais entre Lidl, Peugeot, le Baron de l'Estat, tout vous plaisait, et en même temps,
oui,
il faut faire un choix.
Mais il y a eu une grosse déception. Il y a eu une très grosse déception, c'est-à-dire qu'en entendant parler d'entrecôte, je me réjouissais de dîner avec monsieur le Baron de l'Estat, parce que j'ai pas souvent l'occasion de dîner avec des aristocrates, et à la fin, j'apprends que non, c'est même pas un bonhomme, c'est un vin.
Oui, mais ça, attention. Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même le comédien qui l'interprète. C'est sûrement un type qui est agréable et qui est élégant.
Ah oui, mais alors qu'il n'est pas baron. Alors donc c'est l'arnaque dans tous les cas, quand même. Oui, il n'est pas baron. Oui, donc il est sympa.
On s'est fait eu.
Vous êtes manipulé. Alors pour le dîner, moi, je préfère à ce moment-là aller dîner avec vous.
Ah bah c'est foutu pour foutu. C'est pour foutu. Merci, mon champion. Non, comment il s'appelle le groupe de Nicolas Kerr là ?
Pony Hawks.
Pony Hawks, c'est eux là, donc là c'est Pony Hawks.
Enfin là c'est fini, on l'entend plus.
Il l'a bouché. Donc c'est de... Bah non, c'est fini. il a raison, l'Armel. Pardon, Rollin. Non, mais je veux pas vous.
Rollin, vous allez me faire les tranches un peu plus fines ce matin ? Vous allez descendre de vélo ?
Non, mais je m'emporte, c'est par sympathie pour Armel. Oui, et puis j'aime bien quand il vous met bien le nez.
Qu'est-ce que vous avez sorti de la presse? Ah oui, les connoisseurs de l'information. Depuis des années, chaque matin, chaque midi, chaque soir, ils épluchent le net, la presse papier et leurs voisins pour en savoir plus. Ce sont les spécialistes de l'information.
Marie Missé,
bonjour, commencez Marie
Missé. Bonjour, il y a un Libé spécial la France vue par les réfugiés aujourd'hui. Alors, ce sont donc des réfugiés qui viennent d'Iran, du Soudan, d'Afghanistan, de Colombie, de Syrie, qui parlent non pas d'eux-mêmes, mais de la France. Donc, c'est un petit peu leur vision de la France. C'est par exemple l'occasion de lire un article sur les narcotrafiquants en Colombie, vu par un étudiant colombien. Il y a aussi un Youssef Aliem, qui est étudiant soudanais, qui lui va interviewer les gens qui ne votent pas, ce qui pour lui semble un peu fou, puisqu'il n'a pas le droit de vote dans son pays, etc.
Alors notre camarade Grégoire Bizot viendra tout à l'heure avec l'un des rédacteurs de ce numéro spécial.
Bah
c'est super. Paf, réaction, action, réaction. Tito ?
Ouais, alors moi j'ai un truc magnifique.
Tito, ouais. Bonjour.
Bonjour, excusez-moi, bonjour tout le monde.
Ça me semble pas, ça ne mange pas de pain.
Le bisou, peut-être tout l'état.
Salam alaikum. Voilà, alors moi j'ai un truc incroyable. Aujourd'hui à 16h, à Drouot sera vendu des fossiles, notamment pour tous les amateurs de courses de taureaux. Il y a une tête de tricératope. Alors celui qui a un grand appartement peut remplacer sa tête de taureau contre le mur et mettre la tête du tricératope à la place.
Ah, vous les aimez morts, les animaux vivants.
C'est superbe.
Oui, c'est vrai. Alors, on voit, c'est très beau, des os de fossiles.
Il y a des os, il y a un piton, il y a aussi un zafasora. Voilà.
Zafasora.
Oui, c'est
parce que moi, j'ai été au contact du terrain samedi matin. Je suis allé à Rodez. Et avec qui donc que j'ai pris l'avion ? Avec Marine Le Pen, qui allait faire un meeting à Rignac.
Ah, oui.
Donc j'ai tout écouté ce qu'elle disait avec son garde du corps qui était assis à côté d'elle.
En faisant semblant de dormir.
Malin comme tout. Quand je plissais un petit peu les yeux, genre le gars qui dort. Oui. De temps en temps, je disais, j'entends rien pour tromper mon petit monde. Et puis, elle a dit des trucs comme ils annoncent du vent dans les jours qui viennent, ça. Hein. Et puis elle a dit, j'ai un petit peu soif à un moment
donné. Ça m'étonne
donné,
qu'à moitié ce que vous dites.
Après.
Et les Français ne le savent pas. Ça.
Non. Alors les hôtesses se distribuaient des boissons chaudes. Elle a pris un petit. Ça, j'ai pas bien couvert si c'était un café ou un petit café, mais un des deux.
C'est vécu, ça.
C'est vrai.
Vous étiez au contact.
Ça m'a filé le tournis. À la fin, quand on est descendu de l'avion, il y avait des gens qui l'attendaient. Puis elle est partie avec eux.
Mais méchante, vous me disiez.
Non. Elle est partie avec eux.
Elle était là quand même. Elle avait un pantalon, une robe.
Oui, voilà, des vêtements de pluie. Parce qu'en plus, on est arrivé sous la neige à Rodez, tout ça. Mais elle a dit, c'est quand même. Je suppose, je ne l'ai pas entendu, mais qu'elle a dit, ça fait quand même tout drôle, la neige à l'aéroport. Quoi.
Méchante comme ça. Agressive, vilaine.
Oui, puis son garde du corps.
Faudrait le dire aux gens, ça. Faudrait qu'ils le sachent.
Oui, qu'elle prend l'avion, tout ça.
Garde du corps, genre costaud en plus, non ? Voilà.
Il avait pris l'avion aussi, puis il était. Tout le voyage, il était pratiquement assis. Sauf un moment, il s'est levé, puis il s'est rassis.
Peut-être aux toilettes. Ça, les Français ne le savent pas. Costaud comme tout, sûrement, le mec.
C'est une baraque.
Il faut le dire aux gens. Il faut le dire, ça. Le mec, attention. Merci François Rollin. On n'en sait plus.
De rien.
Pour la deuxième partie. Qui a repris Zanini?
C'était Wilson Simonal à l'instant.
Les paroles originelles, c'est tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Ce qui est évidemment une vision optimiste de la vie amoureuse. Alors, d'autres choses ce matin. Qu'est-ce que... Ah oui, les connoisseurs, leur générique. Qu'est-ce que vous avez pioché d'autre, Thierry? Je vous vois.
Bah, moi, j'ai un jouet, j'ai un truc sur Lou Reed, la New York.
J'aime bien que vous puissiez
Public
dire ici ce que vous ne pouvez pas dire dans votre journal.
C'est ça, oui, c'est pas mal, c'est vrai, c'est vrai. La New York Public Library a fait l'acquisition des archives de Lou Reed. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Enfin, fallait quand même le faire. C'était, c'est pas mal. Bon, ils sont entendus avec sa veuve, Laurie Anderson, en l'occurrence. Alors, donc, il y a plein de documents, il y a des photos, il y a des écrits, des heures et des heures de démos, hein, plusieurs centaines d'heures, des enregistrements studio, des concerts, des interviews et une énigme. Il y a un paquet qui n'a pas été ouvert.
Vous êtes bon là.
On est pas mal. Il y a un paquet qui n'a pas été ouvert, qui date de 1965. Et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Alors, cruel dilemme, est-ce qu'il faut ouvrir ce paquet ou est-ce qu'il faut ne pas l'ouvrir ? Alors, on pense quand même savoir ce qu'il peut contenir, mais ce n'est pas sûr. Ce paquet, il pourrait contenir, et là, évidemment, ça prend toute son importance, une bande magnétique qui pourrait être, ça fait beaucoup de voilà,
oui, là,
l'un des premiers enregistrements du Velvet Underground au studio Pickwick dans le Queens. Donc là déjà, je pense que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, déjà se...
Ah, la légende.
Je sais pas ce que... Attendez, là,
il faut nous imaginer chez nous à 7h19, à peine réveillés.
Là, les gens arrêtent ce qu'ils font là en ce moment, j'imagine. Ils veulent la suite. Donc il s'agirait des chansons Buzz Buzz Buzz, Why Don't You Smile Now, ou encore Héroïne. Et puis il y aurait un morceau aussi, joué au piano, par un certain John Cale, que très peu de monde a entendu jusque-là. Ça veut dire donc qu'il y a quand même des gens qui l'ont entendu.
Donc il y aurait ça. Ou rien.
Ou la liste
des commissions.
Alors, ce qui accrédite cette idée que ça pourrait être tout ça à l'intérieur, c'est qu'en fait, à l'époque, les bandes magnétiques étaient envoyées par courrier. C'était pour une question de copyright, en fait. Voilà. On faisait ça régulièrement. Hein, les plus anciens d'entre nous pourront en parler.
Il n'y a pas ici.
Merci,
Thierry. Vous y croyez cette histoire, François Rollin?
Moyen.
Ouais, moyen. Ah.
J'ai d'autres choses pour vous. Je visualise pas bien le paquet. C'est un paquet postal, paquet cadeau, j'ai moyen.
J'ai d'autres choses, François, dans la presse ce matin. Dans le Figaro, on parle d'un auteur, Gérard Sibleras, homme de théâtre, abonné au succès. Cet abonnement au succès, vous y croyez ?
Alors,
Gérald, il y aura un vrai abonnement, vous croyez que c'est possible de s'abonner au succès ?
Gérald est un grand ami, donc je peux en effet témoigner. Voilà un garçon qui s'est abonné. Donc,
c'est idiot.
Ça a été même un petit différent entre nous il y a une quinzaine d'années, quand on s'est connus, au moment où on travaillait beaucoup ensemble. Il m'a dit « je vais m'abonner au succès ». Moi, j'ai dit, c'est ridicule, parce que ça va être monotone. Tu vas être donc tout le temps, tu vas aller de succès en succès, tu vas t'ennuyer. Et j'ai dit, moi, je préfère.
Vous n'y êtes pas allé, vous.
Non, moi, j'ai pas pris l'abonnement. Moi, je préférais passer par l'échec une fois de temps en temps. Ouais. Et puis, écoutez, finalement, il a l'air de trouver ça pas mal, hein.
Mais c'est des tarifs abordables? Cet abonnement,
on n'a pas parlé de ça. C'est le principe qui compte.
C'est un service privé, c'est un service public, c'est à la poste, vous ne savez pas.
Non, je ne sais pas.
Merci François. Charlène, vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe dans l'espace, parce que vous me dites que le genre humain déçoit beaucoup. Donc vous avez les yeux dans le ciel, vous avez vu quoi?
J'essaie de prendre un peu de hauteur. Des nouvelles du ciel, cette nuit a été lancé le satellite Sentinelle 2B. Ça va faire un copain au satellite Sentinelle 2A.
C'est la même famille.
C'est sûrement son frère.
Oui.
Et il aura pour mission de prendre des photos des côtes essentiellement, en fait, la végétation et les eaux côtières, pour observer les changements climatiques, les variations.
Alors, il a pour mission, est-ce que c'est un appareil photo géant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Je pense que c'est un être vivant.
Pardon, il y a un trouble. Merci Charlène. François, j'apprends aussi ce matin dans Le Parisien qu'une nouvelle émission va être lancée avec Stéphane Rothenberg, où on va chercher à dénicher les meilleurs marchands ambulants du pays, les rois de la foire. Ça va s'appeler 8 vendeurs s'affronteront pour remporter le titre du meilleur camelot de France. Ça sera sur M6. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis frappé par la modernité du concept. C'est ça surtout, quoi. J'ai l'impression d'être là de plein pied dans le 24e siècle.
Merci beaucoup. Il était seul dans l'espace, Sentinelle 2A, après Sentinelle 1Z, se chercher entre planète, hémisphère, entre... Non, j'ai embrouillé planète et hémisphère. Vous voyez,
c'est dommage.
Dès le début, c'est con, mais je crois qu'il nous faut tous un café. Vous aussi chez vous, à tout de suite.
Au revoir. Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Alors, on a... Tito, rasseyez-vous, mon vieux. Vous êtes en mouvement. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Vous avez coupé du jambon ou pas?
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous hier avez soir, là? Vous avez des papiers, vous avez pris des notes.
Ah, j'ai des trucs. Écoutez-moi ça, si c'est beau.
Prévenez Armel qui est à l'ingénieur.
C'était magnifique.
Pourquoi vous vouliez faire Tarzan?
Parce que hier soir, je suis tombé par hasard sur un mot qui s'appelle Tarzanide. Alors les Tarzanides, c'est des personnages qui sont nés après Tarzan. Il y en a eu 57 Après Tarzan, alors il y a eu Chine à la reine de machin, il y a eu Khazar, il y a eu Hakim, il y a eu Zambla, il y a eu Banga, il y a eu Tamar, il y a eu Buana Simba, il y a eu tout un cycle de bandes dessinées sur Tarzan. Et
on tombe pas par hasard là-dessus, Tito. Il y a un vice particulier chez vous.
Est-ce que tu m'as entendu pousser le cri de Tarzan?
Alors refaites-le, mais attendez. Armel, est-ce que le micro est prêt? On peut refaire
c'est
le
bon. Vous êtes un peu trop près.
Non, reculez un
peu. Voilà. Encore un petit peu.
Encore un peu.
Là, c'est bon.
Voilà.
On y va. Oh
Tarzan chez soi, c'est le petit plus Radio Nova le matin pour les dames, principalement. Bernard Zécry, c'est gentil de passer nous voir. Vous êtes un gros ponte de l'information. Vous êtes
au moins, oui.
On a regardé dans votre bureau Alain Juppé hier, son discours, avec cette phrase incroyable. Il dit « Il est trop tard pour moi », donc une dimension dramatique dans son intervention. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les réactions depuis?
Lui, ce qui m'a frappé dans son intervention, c'est sa lucidité, ce qui est finalement assez rare chez les hommes politiques, et puis la façon dont il a remis sur Fillon, sur les épaules de Fillon, la responsabilité probable de la défaite à venir. Parce que donc hier, il y a eu cette fameuse réunion hier soir, où maintenant, ça y est, c'est confirmé le candidat, enfin, ce qu'on savait déjà de toute façon, le seul qui pouvait éventuellement se retirer, c'était Fillon. Mais on ne pouvait pas le démettre. Là, ça y est, ils sont partis, ils sont en ordre rangé derrière Fillon, et ce sera lui le candidat.
Avec un ticket Fillon-Baroin.
Voilà, alors je pense qu'il y a eu une petite offensive hier soir pour essayer quand même d'imposer Baroin. Les sarkozystes ont essayé, ça ne s'est pas passé. Donc demain, il y a l'UDI qui doit décider de la politique qu'ils vont conduire jusqu'à cette élection. C'est s'ils vont rester derrière Fillon. Enfin, pour l'instant, ils ne le soutiennent plus. Et c'est que des sondages, évidemment, mais les sondages le donnent à la baisse. Et donc, il n'est pas du tout sûr que la droite soit présente au second tour.
La journée devait être folle, vous imaginez, QG de campagne de Sarkozy, viens, on file déjeuner dans telle brasserie, puis on repart, on prend un taxi, on va chez Xavier Bertrand, Baroin passe nous voir, non attention, prends ton scooter, il y a la femme de Fillon, le fils de truc, Claude Chirac, t'es là, machin.
Et toute la nuit, par exemple, apparu et descendu en voiture, ils sont descendus à plusieurs parlementaires en voiture à Bordeaux pour essayer de convaincre.
On y va, allez, on prend les deux, le péage, t'as dû kipper le péage. C'est un autre de frère, on y va, t'as ta carte bleue, non, on prend la tienne, oui. Et très excitant tout ça, j'imagine.
Oui, oui, ça dépasse les séries House of Cards, c'est d'une fadeur à côté, c'est absolument incroyable, haletant au possible, et là c'est peut-être dramatique au niveau du résultat dans 40 jours, dans 45 jours.
Merci Bernard. Tout de suite, rien à voir, et c'est ça qui est formidable et qui fait le sel de la vie, nous sommes avec Adlan du groupe Binobin au téléphone, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Adlan, vous avez vu, vous étiez déjà en ligne, grâce à ça, vous avez pu en savoir un tout petit peu plus sur l'affaire Fillon-Sarkozy-Juppé.
Donc vous... Oui, et sur Tarzan aussi.
Et sur Tarzan, le cri de Tarzan qui fait surveiller. C'est ce soir que vous êtes au Théâtre Les Étoiles à Paris, Binobin.
Oui, Adlan. À 19h30.
Qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? Ça s'appelle Autour des femmes, qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, c'est un spectacle, c'est une création musicale autour de la mémoire des femmes à travers la musique, en fait. C'est... un regroupement de femmes de plusieurs villes avec lesquelles on a travaillé sur plusieurs mois. Il n'y avait pas de prérequis, elles n'ont jamais chanté. Et là, elles vous présentent tout ce travail fourni qui est formidable, en fait.
Donc vous avez travaillé avec des femmes qui ne sont pas chanteuses et vous avez quoi, inventé des chansons, inventé des choses avec elles?
En fait, c'est des femmes ordinaires, finalement, et qui nous paraissaient, dans la vie de tous les jours, transparentes. Mais quand on a creusé un petit peu, elles avaient beaucoup de choses à dire. Et on a travaillé sur l'écriture, autour de la musique, structurer tout ça. Et ce soir, on les accompagne avec nos musiciens. En fait.
Alors, voir de la beauté là où les autres ne voient rien, c'est une belle qualité dans la vie. Comment ça se passe? Vous arrivez dans une ville, vous faites des annonces, on vous signale des personnalités particulières?
En fait, c'est presque ça. On nous signale pas justement de personnalités particulières, c'est des personnalités ordinaires. Et du coup, et finalement, de proche en proche, on arrive à constituer un groupe local qui développe un répertoire finalement local. Et finalement, on s'est rendu compte que d'une ville à l'autre, il y avait des choses qui revenaient, il y avait un tronc commun, voilà. Et on a décidé, là, c'est pour la deuxième année, de les réunir pour que les gens les voient enfin autrement.
Des femmes de quelle ville?
Là, il y a Vernon, Paris, Fleury, Gennevilliers, Saint-Denis et j'en passe.
La sauto de la région parisienne, cette fois-ci, vous avez été dans plein d'autres endroits.
Oui, je connais le travail de Binobine parce que moi, je monte en ce moment un projet théâtral dans un quartier difficile à Saint-Étienne. Et parmi les femmes dont je m'occupe, il y a des femmes qui ont participé au projet Binobine. Et je peux vous dire qu'elles ne parlent que de ça et avec un enthousiasme qui a transformé leur vie. Voilà. Ah, ce sont en effet beaucoup, des femmes ordinaires, follement sympathiques et follement comme tout le monde, mais pour qui ça a été vraiment une révélation, quelque chose de très très fort de travailler avec Binobine.
Merci, on leur passe le bonjour, ainsi que celle du Chambon, voilà.
Qu'est-ce que l'ordinaire, qu'est-ce que l'extraordinaire, ça sera évidemment un débat. C'est ce soir au Théâtre Les Étoiles à Paris, donc on va faire gagner des places. On va écouter aussi un morceau que vous aviez fait avec Mathieu Bogart il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière.
Oui,
oui, Adlan.
Sur l'album Cosmopolitan avec le talentueux Mathieu.
Alors très bien. Si vous appelez Nova, à quel numéro Armel? 43, moi je ne suis pas très bon.
Ah oui, 01-53-33-33-00.
Il faut répondre à la question comment allez-vous? Et à chaque bonne réponse, vous gagnerez des places pour le grand concert de Binobine autour des femmes aux étoiles ce soir. Appelez le 53-33-33-00 maintenant. Comment allez-vous? Il faudra répondre aux standardistes à cette question. 01-53-33-33-00. On écoute Binobine avec Mathieu Bogart avant le journal. Binobine avec Mathieu Bogart et Thierry Paré. 7h33, j'aime bien dire des trucs comme ça.
Deux morts et de gros dégâts matériels. C'est le bilan de la tempête Zeus qui a traversé la France hier. Les deux victimes ont été écrasées par des arbres alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule. Plusieurs centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité, 600 000 hier, et plus de 250 000 le sont encore ce matin. La fin de cette alerte à la forte tempête hivernale est prévue à 10h. Les salariés du secteur de la santé, du public comme du privé, sont appelés à faire grève aujourd'hui par leur intersyndicale FO, CGT Sud. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, beaucoup d'actions en région, beaucoup de manifestations et notamment une aussi du côté de Paris. Les salariés du secteur de la santé, on vient d'en parler, est-ce la fin de la crise chez les Républicains? Le comité politique du mouvement a renouvelé hier soir à l'unanimité son soutien à François Fillon. C'est un tournant de plus dans la campagne du candidat de la droite. Hier matin, Alain Juppé avait redit qu'il ne fallait pas compter sur lui pour jouer au plan B. Et les partisans d'Alain Juppé ont prévu de se retrouver ce matin au Sénat autour de Jean-Pierre Raffarin. Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire. Ce dernier entrera en vigueur le 16 mars. C'est une version remaniée du fameux décret migratoire qui a été suspendu par la justice. Si les ressortissants irakiens ne sont plus concernés par ce nouveau texte, en revanche, ceux de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Yémen sont toujours ciblés par l'interdiction d'entrer sur le territoire, à l'exception, et ça aussi c'est nouveau, des détenteurs de visas et de cartes vertes. Les deux enfants de l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner ont été convoqués devant la justice à Buenos Aires hier pour s'expliquer dans le cadre d'une affaire de corruption présumée qui vise toute la famille. Et puis la popularité croissante des feuilletons sud-coréens en Chine provoque ces dernières années un afflux massif de visiteurs chinois à Séoul. L'année dernière, 8 millions de touristes chinois se sont rendus en Corée du Sud, dont 40% en voyage organisé. Résultat, si la fréquentation touristique chinoise baissait ne serait-ce que de moitié, eh bien ce serait près de 10 milliards de dollars qui partiraient en fumée, selon la presse sud-coréenne. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi les journalistes sud-coréens se sont interrogés là-dessus? C'est très simple,
Qui va vous dire pourquoi?
Je sais pas, on peut s'imaginer pourquoi on s'interroge sur un problème qui n'existe pas. En fait, c'est simple, c'est parce que les autorités chinoises viennent d'ordonner aux agences de voyage chinoises donc de ne plus envoyer de touristes chinois en Corée du Sud. Une mesure forte prise en représailles à la décision de la Corée du Sud d'installer sur son territoire un bouclier antimissile américain. Ce bouclier américain est une réponse aux menaces nord-coréennes croissantes, mais ses puissants radars permettent aussi de surveiller les activités balistiques chinoises. Il faut savoir que ce bouclier antimissile, il entre en vigueur aujourd'hui même.
Ah, merci. Vous aimez bien dire le mot chinois, vous l'avez dit beaucoup. C'est très bizarre, c'est peut-être la sonorité qui vous plaît. Météo Flamenco de Tito. Ensuite, nous aurons ces auditeurs qui ont appelé le 01-53-33-33-00 pour gagner des places pour le groupe Binobine en répondant à la question « Comment allez-vous » Il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Tito, est-ce que vous êtes d'humeur flamenquiste ce matin?
Ungawa.
Oh mon Dieu, il est fatigué.
La météo. Bonjour à tous. Lolaï, 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 lolaï. Dans le sud de la France, du côté de Montpellier, Nice, Marseille et la Corse. Ailleurs, il pleut partout. Alors, les températures sont à Amiens, de 4 à 9 à Beauvais, de 4 à 11 Clermont-Ferrand, de 2 à 11 Dreux, de 6 à 10 Limoges, de 6 à 11 à Bordeaux, de 10 à 11 Montpellier, de 5 à 15 Nantes, de 8 à 11 Saint-Étienne, de 1 à 7 Tokyo, de
Merci. Bonjour, vous avez appelé tout à l'heure pour gagner des places pour Binobin ce soir aux Étoiles.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est
Bonjour.
Votre... Vous êtes Sandra ?
Oui, tout à fait.
Sandra, la question à laquelle il va falloir répondre, c'est comment allez-vous ?
Très bien.
Est-ce une bonne réponse, François, pour vous ?
Oui. S'il n'y avait qu'un trait, ce serait mauvais, mais très bien.
Très bien. Vous avez gagné, Sandra, deux places pour ce soir.
En fait, je vais vous passer mon fils, Léon.
Ah, bon, très bien. Léon ?
Bonjour.
Bonjour, Léon.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Bien.
Ah, François, bien ?
Ouais. Précise, Léon. C'est presque ça, mais précise.
Tu vas bien.
Très bien. Léon, c'est deux places aussi pour aller ce soir au concert. Tu vas aller à l'école, Léon ?
Oui.
Tu emmènes ta mère à l'école et ensuite tu mènes ta vie, quoi. Tu la déposes là-bas ?
Oui.
Voilà, tu déposes ta mère, elle fait sa vie à l'école et puis elle donne son cours. Et puis toi, tu vas faire quoi ? Musée, cinéma, café, balade dans la rue ?
Bah oui.
Oui, un petit peu tout, ta vie. Je te souhaite une bonne journée, Léon. Déjà deux gagnants ce matin. Ils repassent par le standard. Je sais jamais comment ça marche, les trucs des jeux à la radio.
C'est très compliqué. Hein. Il faut tout rebrancher. Alors, à chaque fois. Il y en a pour une demi.
Bon, les autres, vous avez réussi à les rejoindre parce qu'il y a eu 11 appels. Comment ?
Pas tous.
Comment ? Écoutez. De quoi j'ai l'air. On a envie de jouer dans la cour des grands. Pendant ce temps-là, sur Inter, RTL, Europe 1, il y a un son parfait, il n'y a pas un type de mou qui crie dans le micro, avec Roland qui arnaque les gens sur les jeux. On a un jeu pour une fois qu'on fait gagner des choses qui ne sont pas uniquement des nuits avec Tito. On les rappellera tout à l'heure, parce qu'il faut mettre maintenant. Je crois qu'on va me dire qu'il va y avoir de la pub et ça va me retomber sur le dos, on va dire que c'est à cause de moi.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi ?
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
L'énergie monte ce matin grâce à ce morceau que j'ai composé. Je vous raconterai dans quelles conditions. Tout de suite, le standard est pris d'assaut par des auditeurs, des auditrices qui veulent gagner des places pour les Étoiles ce soir, le spectacle de Binobin, en répondant à la question « Comment allez-vous » Julie ?
Oui, bonjour.
Julie, bonjour. Vous appelez d'où ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, d'où appelez-vous ? Oui.
Alors, j'appelle de la Plaine-Saint-Denis.
Oui.
Non loin de Paris.
Oui, et donc vous devez répondre à la question « Comment allez-vous ? »
Eh bien, je vais très bien ce matin.
François Rollin, c'est une bonne réponse ?
Alors, les paroles sont justes, mais l'intonation, c'est pas tout à fait ça. Vous nous le refaites une fois en essayant de bien travailler le petit côté switch à la fin, oui ?
Je vais très bien ce matin.
Ah oui, voilà, ça, c'est bon, c'est gagné. Deux places pour Binobin. Merci Julie, on vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes avec Christophe maintenant. Christophe, bonjour.
Bonjour Edouard.
Christophe, vous appelez d'un endroit venteux, un endroit où vous êtes au milieu d'une guerre, au milieu d'une colère de la nature.
Presque, je traverse le Valois.
Alors, traverser le Valois, mais le Valois Perret ou le Valois sans Perret ?
Le Valois avec Perret.
Alors, on est en terre de balkanisation, hein. Il y a une guerre de tranchées. Isabelle Balkany, je rappelle maintenant, a décidé de la sécession de le Valois Perret du reste de la France. Est-ce que ça se sent quand vous traversez le Valois Perret, cette ambiance de guerre civile ?
Oui, on voit beaucoup de familles, trois enfants, blanches, sortir de l'église.
Oui.
C'est assez inquiétant.
Alors, Christophe, vous connaissez notre question du jour pour gagner des places. Comment allez-vous ?
Alors, j'espère avoir la bonne réponse. Je dirais. Comme un mardi matin pluvieux.
Bah, François Rollin, qui est juge arbitre.
Oui, bon, mais c'est un peu facile parce que en parlant de choses et d'autres, Edouard vous a donné le temps de réfléchir. Mais c'est ça, c'est comme
bon,
un mardi
ça,
matin pluvieux.
Je pense que vous êtes aidé. Christophe, je vous souhaite un très bon spectacle ce soir aux Étoiles avec Binobin.
Merci.
Des bonnes phrases de mec de la radio. Merci. On est avec Jacques Souvent, notre reporter dans la rue. Jacques ?
Agatha, bonjour.
Bonjour.
Je suis avec Agatha. Agatha, est-ce que vous lui avez dit finalement ?
À qui ?
Vous savez bien à qui ?
C'est très décousu.
À quoi ?
Parce que moi, je ne sais pas lui dire, par exemple. Chaque fois que je m'approche pour lui dire, j'ai une petite boule au ventre.
Je ne comprends pas.
Est-ce que vous lui avez dit ou pas, finalement ?
Non, je ne l'ai pas dit.
Moi non plus, je n'arrive pas à lui dire. Parce qu'une fois que vous lui avez dit, votre vie ne sera plus jamais comme avant.
D'accord.
Jack ?
Oui ?
Vous êtes dans l'abstraction ce matin ?
Ah, vous êtes là ?
Jack, regardez-moi dans le micro. Oui, regardez-moi bien.
Oui, je vous regarde bien, c'est tout noir.
Vous êtes dans la conversation abstraite ce matin ?
Non, c'est que j'étais...
Vous êtes dans le conceptuel ?
Faut que vous y alliez.
Faut que j'y aille.
Oui.
Au revoir.
Vous êtes dans quel quartier, Jack ? Vous êtes où ?
Je suis dans le 11e parce que j'ai donné rendez-vous tout à l'heure à Cynthia Fleury, place de la Bastille. Et j'étais déjà en amorce un peu du sujet. Avoir le courage de dire ce qu'on doit dire.
Vous croyez qu'on doit dire quelque chose, qu'il y a quelque chose?
Non, des fois, je pense qu'il vaut mieux le faire.
Alors, on a beaucoup de choses à dire, mais y a-t-il des gens pour les entendre? C'est un des problèmes dans la vie aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, peu qui veulent écouter.
Oui, c'est ça, l'écoute, c'est un vrai souci. Alors, moi, je suis dans cette question-là ce matin. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Ça ne veut pas dire que je vous écoute, mais je vous entends. Oui.
J'ai mon téléphone qui parle en même temps. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous lui avez dit, vous?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'avais pas envie.
Là, ça marche.
Ça va venir un jour ou... Je ne sais pas.
Dans mademoiselle, il y avait une promesse de pluriel. Elle n'est pas tenue pour le moment.
Ouais, et vous?
Alors moi, je l'ai dit hier. Ouais, je l'ai dit et on en a parlé. Non, il était pas trop... Non. Mais je lui ai dit, hein, mais...
Et il l'a pris comment?
Ah, très très mal, très très mal.
Je vais vous laisser.
Mais j'ai bien fait de me dire, tu quittes.
Mais, je peux direct.
Je vous laisse avec ces demoiselles.
Mais je l'ai dit.
Il y avait plus de promesses dans l'intitulé « Bonjour, mesdemoiselles », ça faisait rêver. Oui. Nous sommes maintenant avec Grégoire Bizot. Grégoire Bizot, numéro exceptionnel de Libération ce matin avec des rédacteurs d'un jour. Qui avez-vous invité? Deux sont avec nous, deux de vos rédacteurs, pour participer à ce numéro de Libération.
Oui, on a fait un numéro spécial réfugiés, mais c'est un numéro par les réfugiés, mais pas sur les réfugiés. C'était ça la commande. C'était de leur demander comment ils nous voyaient, comment ils nous regardaient, comment ils pouvaient nous décrire. Et on voulait faire un journal sur cette campagne, sur cette folle campagne, sur cette et notamment sur cette droite qui décidément a du mal à se mettre à l'endroit. Et donc voilà, je suis venu avec deux rédacteurs, Roux, qui est iranien, et Amzar, qui est syrienne, Anmar, pardon. Et tous les deux ont vu François Hollande. Ils peuvent vous donner des nouvelles de François Hollande.
Alors, les réfugiés, ça vous va, le libé des réfugiés, tout à coup, les dire de, je ne sais pas ce que c'est un intitulé qui vous va, Anmar, ou pas?
Il y a eu débat.
Moi, je ne sais pas. Oui, je trouve qu'il y a un côté un peu. C'est l'équivalent, je ne sais pas, il y a un côté charitable. Je sais pas, moi, ça ne me va pas trop, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que c'est notre libération.
Et c'est le mot libération, là, il reprend tout son sens tout à coup.
Moi, j'aime, oui. C'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Enfin,
donc le libé des libérés, un peu.
Voilà. On est là et on est libérés. Et c'est nous qui parlons cette fois-ci, alors on est beaucoup plus on est libérés.
Anne-Marie, vous arrivez de Syrie, vous étiez journaliste là-bas, vous êtes journaliste?
Oui, mais je n'étais pas tout le temps journaliste. J'ai travaillé un peu en journalisme en Syrie, mais. Je travaillais plutôt dans la production artistique. Et
là, on vous envoie vraiment au cœur du problème, parce que vous avez la chance d'avoir un rendez-vous avec François Hollande, le président de la République. Donc racontez comment ça s'est passé.
C'était très intéressant, parce qu'il est modeste, il n'est pas...
Donc vous l'avez trouvé comment, si on devait dire en un mot?
Enfin, il était seul.
Seul.
Et il était... Il ne voulait pas parler de son avenir, de ce qu'il va faire après.
Vous aviez une image de lui? Vous en faisiez une idée?
Pas vraiment, mais en fait, on voit que tout le monde était déçu de lui. Je voulais voir comment il voit ça. Et apparemment, il a des regrets. Enfin, il regrette que les gens voient ça. Il n'aime pas qu'il y ait cette image sur lui.
Vous lui avez dit ça. Vous lui avez dit, j'ai l'impression, moi qui arrive en France, que tout le monde est déçu par vous.
Presque. Enfin, on a dit ça, mais dans d'autres mots.
Vous aussi, Roux, qui était avec elle, vous étiez journaliste en Iran ou pas?
Oui, oui, j'étais journaliste en Iran.
Et vous aviez approché des dirigeants politiques de ce niveau-là?
Oui, j'ai même visité le guide suprême iranien, le président, ancien président...
C'est plus détendu d'être avec François Hollande?
Oui, en fait, quand on était... Oui, tout à fait, on est allé à l'Élysée, on croyait que ça devrait être assez majestueux. Oui, le bâtiment, la décoration, oui, mais l'attitude le déroulement, c'était normal.
La fameuse normalité.
François Hollande était parfaitement normal. Mais là, en fait, tout à l'heure, quand j'entendais la question
de Jacques Souvent dans la rue,
oui.
Est-ce que vous lui avez dit?
Oui, on lui a dit. On lui a dit que beaucoup des gens ne sont pas très satisfaits de les gens qu'on a votés. ne sont pas satisfaits. Mais au début, il était assez, je pense, c'est mon ressenti, choqué. Mais après, il s'est rendu compte de notre jeu parce qu'on voudrait, on voudrait attaquer à ses ressentis personnels, pas les arguments comme
on
un président.
Savoir.
Oui, exactement.
Oui, oui, c'était pas de la provocation de votre part, c'était vraiment une question simple d'homme à homme. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir déçu les gens? Vous vous disiez qu'il était seul, ça veut dire qu'il était seul physiquement, vous pensiez qu'il y aurait plein de conseillers ou c'était une chose plus profonde chez lui?
Dans le palais, c'est... Enfin...
Tout le monde est parti. Il y a un vieil huissier qui arrive, on traverse des couloirs vides.
Voilà.
C'est vrai?
Presque, non. Il y a des gens, bien sûr. Mais on voit ça... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Enfin, c'est ce que j'ai senti aussi. C'est dans ses yeux, en fait. On voit ça dans ses yeux. Et il était un peu mélancolique aussi. Et ça ajoute sur notre... Enfin, ce qu'on voit.
Oui, c'est votre réaction, mais vous pensiez qu'il était un peu déçu. Il s'est dit, tiens, ce sont deux journalistes de réfugiés, l'un iranien, l'autre syrienne, peut-être qu'ils vont déjà me remercier d'être là et tout ça. Et vous avez tout de suite embrayé sur des questions politiques.
Oui, au début, oui, mais à la fin, il nous a remercié. Il nous a remercié pour lui poser des questions sur ses ressentis personnels. Et je pense qu'au milieu, il a rentré dans le jeu. Il est quand même et vous, intelligent. Votre... Il a compris ce qu'on cherche.
Votre idée maintenant, vous, c'est de vivre ici, de vivre de votre métier de journaliste ici. Comment vous voyez les choses, Roux et Amran?
Anne-Marre.
Ah ben voyez, on ne sait pas. Moi, à part Jean-Pierre et Jean-Claude, j'embrouille tout. Non, c'est Grégoire Bizot qui a commencé quand
c'est
votre prénom.
C'est de ma faute.
J'ai oublié la question.
Eh bien, c'est qu'elle n'était pas si bonne. C'était sur l'idée, si vous aviez envie d'exercer votre métier de journaliste ici, de vivre ici ou pas.
Oui, bien sûr. J'ai fait des études de cinéma aussi et je veux continuer aussi. Enfin, je veux faire les deux.
Oui, je fais du journalisme ici. Et j'ai monté mon média, Lettre Persane, qui parle de l'Iran. On a plusieurs, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé. Oui, j'envisage de continuer de mes activités journalistiques et j'envisage de parler, comme ce numéro, de parler plus de la France que seulement de l'Iran ou de la Syrie, de la région.
Grégoire Bizot, dans tout ce numéro de Libé, quelle vision de la France différente vous avez eue grâce à cet apport de gens qui ont vécu ailleurs?
Non, je ne sais pas si c'est une vision différente de la France. C'était d'abord, on sentait, moi j'ai trouvé qu'il y avait un regard un tout petit peu décalé. Il y avait comme ça une forme de fraîcheur. Et alors, certains pourraient dire de naïveté, mais en fait, derrière la naïveté, il y a un vrai regard un peu décalé comme ça. Par exemple, parmi les sujets, il y en a un qui est apparu pendant la conférence et qui n'a pas été retenu, mais c'était, c'est quand même bizarre, vous les Français et vous les Parisiens, votre rapport aux petits chiens. Moi, c'était un Soudanais qui racontait, nous les chiens, on les déteste, et vous, je ne sais pas ce que vous avez avec les chiens, vous allez pas vous en occuper. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'était un sujet qui a été retenu, c'est, vous faites beaucoup la queue, vous les Français. C'est vrai qu'on a oublié qu'on faisait beaucoup la queue. C'était une Libyenne qui a dit, moi, je quitte mon pays, qui a quitté son pays, qui a dit, ah bah, s'il y a bien quelque chose que je ne vais plus revoir, c'est les queues. Et elle a découvert que Paris était une ville de queue. Voilà.
Deux adjectifs pour qualifier l'atmosphère à Paris, là, telle que vous l'avez découverte.
Deux adjectifs.
Ça, c'est du style télégraphique, journalistique. Deux adjectifs.
Deux adjectifs.
Oui. Pour qualifier l'atmosphère, là, telle que vous la ressentez à Paris depuis que vous êtes là.
Difficile, mais aussi attirante.
Difficile et attirante.
Vivante, mais les gens, des fois, sont seuls.
Difficile mais attirante, vivante mais seule, ce mélange de positif et négatif, commencer par la joie et terminer par la peine, ou au contraire commencer par la peur et finir par l'enthousiasme. Merci d'être venu pendant qu'un enfant s'avance pour cette rubrique déjà extrêmement aimée. Un poème, un enfant. Comment t'appelles-tu? Mathis, tu vas dire un poème? Mais on va t'envoyer un peu de pub parce qu'il faut que tu consommes.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Mais Mathis, toi, t'étais déjà allé à la radio ou pas ?
Non, jamais.
Bon, bah écoute, là, tu sais, toutes les demi-heures, en fait, il faut donner les informations, parce que sinon, les gens vont aller les écouter ailleurs. Ça serait dommage. Ouais. En plus, Thierry Paret, tu vas voir, il est très bon. Tu me dis ce que t'en as pensé, d'accord ? T'écoutes avec moi. Puis après, on écoute ton poème ?
Oui.
On fait comme ça ?
Oui.
Banco ?
Oui.
Voilà.
En réponse au tir nord-coréen en direction du Japon, tir de missile bien sûr, où se trouvent des bases américaines au Japon, les États-Unis ont déployé dans la nuit en Corée du Sud le bouclier antimissile THAAD, très réticente à cette mesure. La Chine a pris ces derniers jours toute une série de mesures que Séoul qualifie de sanctions économiques. La Chine a par exemple ordonné aux agences de voyage de ne plus envoyer de touristes chinois en Corée du Sud. Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire. Ce dernier entrera en vigueur le 16 mars. C'est une version remaniée du fameux décret migratoire qui a été suspendu par la justice. Alors si les ressortissants irakiens ne sont plus concernés par ce nouveau texte. En revanche, ceux de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen sont toujours ciblés par cette interdiction d'entrer sur le territoire, à l'exception, et ça c'est nouveau aussi, des détenteurs de visa et de cartes vertes. Les salariés du secteur de la santé, du public comme du privé, sont appelés à faire grève aujourd'hui pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. On annonce beaucoup de manifestations sur l'ensemble du pays, et notamment à Paris. Le cortège quittera la place d'Enfer Rochereau à partir de 13h. Il y a beaucoup d'actions aujourd'hui, d'actions sociales, beaucoup de grèves. Beaucoup de. Voilà, outre le secteur de la santé, les contrôleurs aériens poursuivent leur action, leur grève entamée hier. Une action qui coïncide avec un appel à la grève aussi lancé à Air France par plusieurs syndicats au sol afin de peser sur les négociations salariales qui s'ouvrent aujourd'hui. Un rassemblement est prévu aux alentours de 9h, donc dans une heure, à proximité du siège de la compagnie à Roissy. La grève
vous
se poursuit.
Vous nous annoncez toujours les lieux, les horaires. Vous voulez qu'on y aille à toutes ces manifs ? Je sens un truc planqué dans vos phrases.
C'est une information pratique.
Je dis ça, je dis rien, mais dans une heure, il y a des gars qui vont
c'est
se.
Comme, oui. C'est comme ouais, si vous étiez, ouais. Il va pleuvoir, attention, préparez votre parapluie. Voilà, ouais. Non, ça peut s'adresser aussi à ceux qui sont susceptibles d'aller sur place, mais qui ne savent pas qu'il y a grève et qui
d'accord.
Donc, ça peut aussi
d'accord,
les concerner.
T'as dit Daniel.
La grève se poursuit aussi à Pôle emploi pour dénoncer les conditions de travail. Et puis la collecte des déchets pourrait être perturbée dans plusieurs villes, et notamment à Paris. Un mouvement unitaire est prévu dans le secteur de l'énergie pour la revalorisation des salaires et contre la casse des industries électriques et gazières qui regroupe quelques 150 000 salariés. Je l'avais dit, beaucoup d'actions aujourd'hui. Oui. Est-ce la fin de la crise chez les Républicains ? Point d'interrogation. Le comité
qui a peut-être demandé à notre invité Mathis, est-ce que c'est la fin de la crise chez les Républicains, tu penses, toi ?
Je ne sais pas.
Oui, mais je sens que dans « je ne sais pas », il y en a.
Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire en même temps, hein, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc la fin de la crise chez les Républicains, le comité politique du mouvement a renouvelé hier soir à l'unanimité son soutien à François Fillon. C'est un tournant dans la campagne du candidat de la droite, un tournant de plus on va dire. Hier matin, Alain Juppé avait redit qu'il ne fallait pas compter sur lui pour jouer au plan B. Les partisans d'Alain Juppé vont se réunir ce matin au Sénat autour de Jean-Pierre Raffarin. Idée TGV, c'est bientôt fini, la filiale de la SNCF devrait arrêter son activité de transporteur à la fin de l'année. Les deux enfants de l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner ont été convoqués devant la justice à Buenos Aires hier pour s'expliquer dans le cadre d'une affaire de corruption présumée qui vise toute la famille. Scénario macabre pour un héritage mal réparti, disparu depuis la mi-février. Le couple Troadec et leurs deux enfants auraient donc été assassinés par l'ex-beau-frère du père de famille. Ce dernier a avoué. Il a été écroué. Puis deux morts et de gros dégâts matériels. C'est le bilan de la tempête Zeus qui a traversé la France hier. Les deux victimes ont été écrasées par des arbres alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule. Plusieurs centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité. Il y en a encore 250 000 ce matin sans électricité. Et la fin de cette forte tempête hivernale est annoncée à 10h, donc dans 2h maintenant.
Vous annoncez, t'as vu, la tempête, t'as déjà traversé une tempête, toi, ou pas ?
Non.
Qui a choisi ta couleur de lunettes ? C'est bleu ? C'est toi qui, ou tes parents ?
Mes parents.
Et toi, ça te va ou pas ? T'aurais voulu quelle couleur ?
Bah, bleu.
T'aurais pas choisi autre chose ?
Non.
Est-ce qu'on est fier ? Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai eu un appareil à dents, j'étais super fier. Et pour les lunettes, on est fier ou pas ?
Bah ouais.
Genre, tu te rappelles le premier jour où t'es arrivé à l'école avec ?
Bah, j'ai eu mes lunettes à 2 ans, donc oui.
Ah oui, donc à 2 ans, on se rappelle plus. Mais celles-là, elles sont très classes quand même. On te l'a déjà dit, ça, ou pas ?
Oui.
Ah oui, qui te l'a dit ?
Mes parents.
D'accord. Et à l'école, on t'a pas dit, elles sont classes, tes lunettes Matisse ?
Non.
Tiens. Mais tu peux t'approcher plus près du micro, comme ça tu pourras... Viens là, mon vieux, viens là, parce qu'on t'a fait subir toutes les infos, quand même. C'est... Maintenant, on va t'écouter un petit peu.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Ah, voilà, on m'a rouvert le micro. C'est quoi ton poème, Mathis ?
Chose du soir de Victor Hugo.
Ah oui, ah, ça fait plaisir d'entendre enfin un peu de Victor Hugo. T'es avec François Rollin qui connaît bien enfin qui n'a pas connu Victor Hugo lui-même,
mais qui connaît bien l'œuvre de Victor Hugo. Et ben, tu le dis très lentement, hein, Mathis, pour que j'entende bien tout, parce que moi je suis un peu lent. Chose du soir de Victor Hugo.
Chose du soir, le brouillard est froid, la brouillère est grise, les troupeaux de bœufs vont...
Pardon mon cher Mathis, il faut que tu parles beaucoup plus lentement parce qu'on est des gens très âgés, il faut le temps qu'on comprenne. Recommence très lent Mathis.
Chose du soir, le brouillard est froid, la brouillère est grise, les troupeaux de bœufs vont aux abreuvoirs. La lune, sortant des nuages noirs, semble une clarté qui vient par surprise. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Le voyageur marche et la lande est brune, une ombre derrière, une ombre est devant. Blancheur au couchant, lueur au levant, ici crépuscule et là clair de lune. La sorcière assise allonge sa lippe, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. La sorcière assise allonge sa lippe, l'araignée accroche au toit son filet, lutin reluit dans le feu follet comme un pistil d'or dans une tulipe. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Victor Hugo, l'art d'être grand-père.
Merci, très beau poème. C'est très beau, vous le connaissiez, François ?
Oui, oui.
Maître Yvon qui soufflait dans son
biniou. Dans son biniou.
Qu'est-ce que ça vous rappelle ?
Ça me donne envie de le voir entrer dans le studio, Maître Yvon avec son biniou, et puis le voir souffler, l'entendre souffler, entendre ce souffle romantique, ce souffle hugolien qui viendrait donner encore à Nova le petit peu d'énergie qui parfois lui manque. Lorsque vous avez passé une nuit blanche, Edouard, à faire le zouave dans des boîtes un peu interlopes.
En effet, François, j'aime ma coquiner avec quelques travestis alcoolisés, marcher avec eux le long des chaussées glissantes. Mais vous avez bien fait de me rappeler. Alors, cher Mathis, je te laisse aller à l'école. Bravo pour ton poème de Victor Hugo. T'as cours de quoi là ce matin ? Tu vas apprendre quoi ?
Je sais pas.
Eh bien, tu vas l'apprendre d'ici une demi-heure, puisque là, ça va sonner. Je t'embrasse très fort, mon vieux. Bravo. Tout de suite, quoi ?
Tout de suite, le générique de l'émission qu'on n'a pas encore écouté.
Alors,
aujourd'hui.
On écoute. On met le générique, l'émission commence.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près.
Près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup.
François Rollin, vous m'avez accusé devant tout le monde d'être mal réveillé le matin. Je trouve qu'il y a, là-dedans, ce n'est pas, il n'y a pas de fraternité. Il y a pas
précision,
de...
certains matins.
Oui, mais voilà. De donner des noms, donner des dates. Est-ce que vous, aujourd'hui, par exemple, à part être là, intervenir de façon un petit peu...
Ah bah aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle moyen bien réveillé. C'est-à-dire
d'accord.
Vous n'êtes pas mal réveillé, mais pas non plus tout à fait bien. On appelle ça moyen bien réveillé.
C'est le moyen plus.
Oui, c'est le moyen plus, oui. C'est plutôt pas mal
d'accord.
Pour un mardi.
Mais vous avez un animal du mardi,
oui,
ou pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Très bien.
Aujourd'hui, c'est l'escargot.
Oui.
Nous avons un générique.
Tito est très proche des escargots.
Oui.
Tito, vous parliez des escargots l'autre jour, vous disiez c'est vraiment la saison, quand il pleut...
Quand il pleut, oui, mais c'est après l'été.
Vous avez un proverbe sur les escargots, Tito ?
Non, pas
voilà.
De suite, non. J'en bave d'envie, mais ça viendra.
Ouais, c'est bien. L'animal du mardi, c'est donc l'escargot, François.
Oui, alors l'escargot est un animal généralement pacifique qui passionne depuis toujours deux catégories de gens, les cuisiniers et les philosophes. Le chef stéphanois Pierre Gagnère est très attaché au petit gris, avec son fameux minestrone au basilic escargot petit gris à roche rouge, toast ail noir, tandis que Jacques Lameloise à Chagny en tient davantage pour l'escargot de Bourgogne, avec son légendaire œuf meurette poêlé d'escargot. Côté philosophe Édouard, on se souvient de ces mots vibrants de Jacques Derrida, « Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête », ou encore de cette supplique passionnée d'Emmanuel Lévinas, « Escargot de Bourgogne, montre-moi tes cornes, si tu ne me les montres pas, je te mets la tête en bas ». Et puis, à contrario de cette élégance et de cette noblesse, eh bien, certains intellectuels propagent une image dégradante de l'escargot, à l'instar du cinéaste Édouard Baird, qui ne craint pas, dans son film La Bostella, de mettre en scène une course d'escargot sur femmes nues. Qui imagine le général de Gaulle filmant une course d'escargot sur femmes nues ?
Vous avez vraiment fait ça, Edouard ?
Oui, il y a même François Rollin qui joue dedans. Je voulais simplement rendre hommage à certaines traditions de boîtes de nuit locales qui organisent des choses aberrantes comme ça. En le montrant, je voulais bien sûr le dénoncer. Il ne s'agissait pas de montrer au premier degré.
Bien sûr.
De même, lorsque François Rollin a été retrouvé avec deux dames dans cette chambre d'hôtel de Saïgon, c'était pour montrer qu'il ne fallait pas le faire. Merci beaucoup, François. C'était l'animal du mardi. À tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Qu'est-ce que je dois dire ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
Que se passe-t-il donc à Bioule dans le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement à la cantine municipale de Bioule ? Bonjour Florence Dantès.
Bonjour.
Florence Dantès, vous avez une voix, merci. Merci pour cette voix déjà. Vous êtes adjointe au maire de Bioule ?
Oui, tout à fait.
Que petite se passe-t-il commune. Oui, petite commune.
Du Tarn-et-Garonne, 2200 habitants, très agréable.
Très agréable. Il reste des places, parce que maintenant, si ça a l'air si bien...
Dans la commune, oui, à la cantine, pas trop.
Alors voilà, la cantine municipale de Bioule, il y a une initiative très originale et formidable. Pourriez-vous nous la résumer, chère Florence Dantès ?
Oui, alors c'est très simple. Depuis 6 ans, en fait, ça s'est fait à l'occasion de la construction d'une nouvelle cantine qui est à l'extérieur de l'école, mais juste au cœur du village. Nous faisons manger, ou nous proposons aux personnes âgées de plus de 75 ans de manger avec les enfants. Tout simplement, ils partagent les mêmes tables, le même menu, avec un nombre limité de places, bien sûr, parce que notre cantine n'est pas extensible. Mais voilà, tous les jours, depuis 6 ans, il y a entre 4, 5, 6 et jusqu'à 12 papis et mamies qui viennent manger avec les enfants.
Alors c'est à l'échelle de la commune, bien sûr. C'est une cantine qui est au départ destinée, c'est une cantine scolaire ?
C'est une cantine scolaire. Voilà, elle a l'originalité d'être juste à l'extérieur, parce qu'il faut vous dire que notre école est dans un château médiéval.
Pas mal.
Ce qui est assez original. Oui. Et l'ancienne cantine, en fait, était trop petite, donc nous avons construit juste à l'extérieur. Et en regardant la construction de cette cantine, un papy voisin disait « Oh, on aimerait bien y manger, nous ». Et le maire avait eu la même idée. Donc voilà, les deux idées réunies ont fait que ce projet, depuis 6 ans, s'est construit tout simplement. Nous avons pris une délibération, un règlement bien sûr, et depuis, voilà, les personnes âgées viennent partager le quotidien, un moment du quotidien des enfants.
Alors, imaginons, je suis une personne un peu âgée de Bioule, comme par exemple François Rollin, j'habite là, je suis seul chez moi, je n'ai pas beaucoup de sous, comment je fais pour aller déjeuner à la cantine municipale ?
Voilà, vous passez à la mairie, tout simplement, vous inscrire, acheter vos tickets. Alors on a mis, pour ne pas que le contribuable intervienne dans le prix de ce repas où la contribution est créée des inégalités, on a mis le prix du repas équivaut au prix de revient du repas à 6 euros. Donc ça inclut les charges de consommables, de fluides et les frais de personnel. Et donc les personnes âgées paient un ticket de 6 repas, de 6 euros, pour le même menu que les enfants.
Comment ça se passe à la cantine entre les enfants et les gens plus âgés ? Est-ce qu'ils s'assoient ensemble ? Ils se mélangent ?
Oui, tout à fait. Ils se mélangent aux tables. Alors, au début, il y a eu, si je peux dire, une bagarre d'enfants qui voulaient tous manger avec les papis et mamies. Donc, on a dû faire un tour de rôle avec les animateurs qui assurent le périscolaire. Puis après, ça s'est régulé tout naturellement. Et maintenant, ils ont leurs petites habitudes. Et ça se passe. Alors, ça nous a beaucoup surpris parce que ça fait, en fait, le bonheur autant des enfants que des personnes âgées. Les enfants adorent entendre raconter des histoires d'autrefois. Comment on travaillait autrefois, comment était l'école autrefois, et les enfants racontent un petit peu leur quotidien, ce qui se passe chez eux, comment papa et maman les ont grondés la veille, voilà, ils retrouvent un peu leur propre papy et mamie.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque accru que certains parlent la bouche pleine ?
Oui, c'est vrai, chez qui ? Les enfants ou les...
Les deux,
oui, c'est
les
vrai. Deux. C'est vrai.
Pas plus que dans la moyenne nationale.
Vous me rassurez.
Voilà, François. Est-ce que parmi certains des anciens du village, il y en a qui sont devenus des vraies stars, qui ont les enfants, je veux être assis avec machin, je veux être assis avec un tel ?
Oh, je dois dire oui. On a la préférée qui est Mamie Denise, parce que Mamie Denise, on peut lui faire des blagues. Les enfants adorent lui faire des blagues et elle a un rire très 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 fort et communicatif. Et voilà, c'est un peu la star de la cantine.
Mais rien que de l'évoquer, excusez-moi, l'idée des blagues qu'on fait à Mamie Denise à la cantine de Bioule, j'imagine des trucs. Dites-moi par exemple ce qu'on peut lui faire et qu'il a fait marrer, Mamie Denise.
Eh bien, mamie Denise se déplace pour arriver à la cantine avec un déambulateur. Elle habite tout à côté, donc...
Alors, pour le moment, il n'y a pas d'éclat de rire, hein, pour le moment,
non,
Florence,
mais
on va pas se mentir.
Quand elle repart de la cantine, elle trouve toujours des choses insolites dans le déambulateur. Voilà, voilà, soit une petite cuillère, donc on lui dit qu'elle a volé la petite cuillère, soit plus gentiment un dessin fait par les enfants, et voilà, le déambulateur transporte presque quotidiennement des cadeaux insolites pour mamie Denise.
Merci Florence Dantès, j'espère que cette initiative de la mairie de Bulle va s'étendre. Vous allez faire quoi là? Vous êtes où? Vous êtes chez vous encore, vous?
Oui, je suis encore chez moi. Oui, j'ai la chance d'être à la retraite, donc ça c'est très bien. Et donc je vais de ce pas à la mairie pour voir les affaires courantes de la journée.
Il fait quel temps dans le Tarn-et-Garonne ce matin ?
Pas très beau, mais ça va pas durer. Ça ne dure jamais très longtemps le mauvais temps ici. On attend le soleil.
Vous y allez à pied là ?
Oui, j'habite tout à côté. Dans quelques années, je pourrai manger à la cantine.
Vous allez traverser quoi, Florence Dantès, entre chez vous et la mairie de Bulle, dans le Tarn-et-Garonne? Quel paysage?
Tout simplement une rue du village qui s'appelle la rue de la mairie.
La rue de la mairie qui sépare votre maison de la mairie. Vous n'êtes pas maire, Florence Dantès, vous avez eu la modestie de rester adjointe.
J'ai un maire qui est très, très dévoué, qui a un sens de l'intérêt général extraordinaire, et je souhaite rester son adjointe.
Et pendant ce temps-là, dans des maisons de Bulle, des enfants préparent leurs blagues pour mamie Denise. Que va-t-on cacher dans son déambulateur à la sortie de la cantine aujourd'hui? Vous le saurez en suivant ce feuilleton. Merci, on vous embrasse très fort.
Merci, bonne journée.
Salut. Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie, Missé.
Paf, ça s'enchaîne, hein. Roland, il est sur le cul. Roland, vous avez travaillé à un terme, plein d'émissions. Il me dit, j'ai jamais vu une émission aussi bien goupillée. Hein.
Oui. Bon, on voit qu'il y a un gros staff derrière tout ça.
Oui, c'est des gens derrière, c'est qui portent, il y a la charpente. Il y a des gens qui voient que la toiture, vous voyez la charpente.
Ah, c'est lourd.
Et tout à coup, c'est Armel qui est en train de demander. Donc c'est-à-dire, à peine on a raccroché d'un appel, et au lieu de passer simplement des danseuses ou un petit peu de bignou, non, on a paf, tout de suite la revue de presse de Marie Missé. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes remaquillée parce que vous saviez que vous seriez filmée par Nicolas Larty qui vous mettra peut-être en ligne.
C'est très vrai, il va me mettre en ligne, je le sais, c'est inéluctable. Donc voilà, je me prépare parce que parfois c'est difficile.
De quoi parle
plus tard
la presse
la
ce matin, chère Marie?
Eh bien, vous imaginez qu'on se pose la question tous dans la presse aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Mais on ne se la posera pas avec Alain Juppé pour qui, manifestement, parfois si, il est trop tard. Et à jamais. Vous avez dit tout à l'heure, Edouard, qu'il y avait des accents tragiques dans le discours de Alain Juppé hier. Eh bien, ces accents ont clairement inspiré la journaliste Anne Fulda du Figaro, qui se pofend d'une page super lyrique sur le renoncement d'Alain Juppé dans le Figaro. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se régaler. Il y a des métaphores inattendues, telles que « Il sait que la politique, c'est comme pour le millefeuille. Seule la dernière couche de rancune compte. » Je comprends pas trop. Il y a de la phrase courte et hachée qui mime le sanglot politique. Non, il ne voulait pas de ce retour-là, au rabais, biaisé, sans espoir.
Vous ne vous moquez pas de mon ami Anne Fulda. Hein.
Une phrase finale et nominale qui claque, seule avec son ambition présidentielle, qui n'était peut-être qu'un songe. Bon, et là-dessus, elle réussit le miracle, Anne Fulda, de ne pas nous dire ce qu'elle en pense. Alors, parfois, on a l'impression qu'elle dit qu'il est super lucide, qu'il a bien fait. D'autres fois, qu'il aurait dû se battre contre, je cite, ce foutu orgueil et y aller. Si c'est le cas, elle aurait peut-être pu lui citer, si elle avait croisé Alain Juppé, cette phrase de Mathieu Escudier qu'on trouve dans Le Monde. La ressource, on la trouve quand on est devant le précipice. On n'avait pas le choix. Soit on faisait ça, soit on crevait. Ça, c'était de sauver l'entreprise Europens dans un village rural oublié en voie de désertification à Soulvent-le-Château. Cette entreprise, à Doulvent-le-Château, pardon. Cette entreprise familiale qui a été vendue, puis revendue, et revendue, et qui faisait faillite, notamment à cause de très gros dividendes versés à des actionnaires étrangers. C'est ce qu'on lit dans Le Monde. Elle a été donc sauvée, cette entreprise, entre autres, par Mathieu Escudier, qui l'a transformée en coopérative. Alors, pour ce faire, il a fallu trouver de l'argent très très vite. Toute la région s'est remontée les manches pour. Des salariés de Pôle emploi sont même venus un samedi matin pour accélérer les procédures. Les clients ont payé à l'avance par solidarité. Et puis, ça a marché. Résultat, 62 boulots sauvés et des gens contents, même s'ils ont tous des motivations différentes de travailler pour eux et pour la collectivité. Bref, reprendre leur destin économique en main, ça fait du bien dans ce territoire déserté où l'on a voté à 85% pour le FN aux dernières régionales. Marine Le Pen n'est pas la seule d'ailleurs à prononcer les noms de ces villes et villages oubliés. Dans le Figaro, la journaliste franco-tunisienne Sonia Mabrouk, qui est interviewée pour un livre de conversation avec sa grand-mère, regrette que quand on parle de pauvreté et d'exclusion, de déclassés, on parle si peu justement de ces territoires oubliés, jamais invités sur les plateaux et tout le temps de la banlieue. De même qu'on n'invite jamais les Français de confession musulmane, médecins, ingénieurs, chefs d'entreprise. Pourquoi ? Eh bien d'après elle, parce que leur propos est trop apaisé, trop nuancé pour faire le buzz. Résultat, on laisse des plateaux, des chroniques, des espaces à des jeunes comme Mehdi Mekhlat parce qu'ils correspondent à ce qu'on veut qu'ils soient. Ils représentent un échantillon banlieue pour les médias. Mais zut, on a un petit peu l'impression, en lisant cet article titré, que son titre le dessert, puisque, encore une fois, elle... on a l'impression qu'elle correspond à ce qu'on attend d'elle, puisque la phrase d'elle qui est retenue alors qu'elle parle de son rapport à la religion, c'est « Il m'est arrivé d'être traité d'islamophobe », c'est le gros titre de l'interview. Et puis parfois, pour revenir à nos moutons, eh bien c'est vraiment trop tard. C'est le cas pour Juan Carlos Hernández Pacheco et ses amis. Juan Carlos Hernández Pacheco, c'est un immigrant mexicain et pas légal d'une petite ville de l'Illinois dans lequel il tenait un restaurant depuis plus de 10 ans. Il était adoré par sa communauté qui a massivement, par ailleurs, voté pour Trump. Il va être expulsé très bientôt. Le New York Times raconte le désarroi de cette communauté qui voit déporter un homme qui était présent à toutes les ventes de charité, qui apportait à manger aux pompiers. Bref, un citoyen modèle. La plupart continuent à dire que malgré tout, ils voteraient pour Trump encore aujourd'hui. Mais plusieurs estiment que pour ces affaires d'immigration, quand ils connaissent une personne concernée, eh bien, il faudrait faire du cas par cas et ne pas voir les choses en noir et blanc. Ce à quoi j'ai envie de répondre par une citation de Jean Guiton en dernière page. Oui. De la Croix, et qui accompagne une photo
Jean Guiton, que Mitterrand allait voir pour lui demander c'est comment la mort.
Et ben voilà, Jean Guiton, en tout cas, il sait comment peut-être c'est la mort, il sait aussi comment c'est la lumière, puisqu'il dit la couleur et la gloire de la lumière.
La couleur et la gloire de la lumière et la célébrité, c'est la mort éclatante du bonheur. Pour écouter votre revue de presse, Marie Misset, comment s'habiller ? C'est un des soucis qu'ont les auditeurs aujourd'hui. Ils aiment votre rubrique, ils l'écoutent. Nous avons avec nous Cyril Aouiza. Cyril qui a été à la base des hôtels Mama Shelter, ces hôtels novateurs, étranges, bon marché, modernes, et qui se sont essaimés à travers la France et maintenant le monde, et qui lance maintenant le Mob Hotel. Mob Hotel, c'est une nouvelle chaîne d'hôtels dont vous allez nous parler. Mais Cyril Aouiza, vous vous êtes habillé ce matin pour écouter. Comment êtes-vous habillé ? Décrivez votre tenue.
C'est pas mal.
Qu'est-ce que vous avez sur
chapeau
vous ?
Melon.
Chapeau melon.
Posé de manière oblique.
Qui est un chapeau melon, c'est une feutrine ?
C'est une feutrine, c'est une feutrine.
Alors le bord a été renforcé ?
Non.
Ah, si, le bord est renforcé.
Un peu renforcé, oui.
Avec un ruban, si on est sur du ruban, une soie.
Satiné,
nous avons un costume rayé, un costume rayure tennis,
oui, voilà.
Une flanelle.
Flanelle, ouais. Absolument, absolument. Et puis une espèce de grande écharpe colorée, voilà.
Un poncho.
Une sorte de poncho talite, un peu mi-hébraïque, mi-africain.
Donc voilà. on est bien sûr un costume de la City, une sorte de lord anglais qui travaille dans la finance avec son chapeau melon. Il y a ce mélange d'Afrique et de judaïsme. Et puis un collier autour du cou, qu'est-ce que c'est ?
C'est des petits gris-gris que j'ai toujours sur moi. Voilà.
Cyril Aouiza, quel est le message que vous voulez nous faire passer par cette tenue sublime, hein, je ne vous cache
absolument
pas.
Aucun.
Et une des plus belles barbes qui m'était donné de voir. François Rollin, vous qui en avez vu des barbes dans votre vie ?
Ah oui, celle-là était patente, mais tout le bonhomme était patent.
Tout était patent. Vous retrouvez Cyril Aouiza tout de suite après pour parler de la naissance des Mob Hotels. Le premier arrive au Puce de Saint-Ouen, c'est ça ?
Absolument, absolument.
À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
C'est où déjà, plus près de toi ? Tu savais, non ?
C'est là, vous y êtes. Et Jack Souvent est dans la rue aujourd'hui, il est pas loin, je crois. Vous êtes dans le centre de Paris. Ah, il me raccroche à la gueule. Eh ben tant pis pour lui, ça sera le journal de Thierry Paret. J'ai toujours une carte dans ma manche, comme les bons tricheurs.
Les tirs de missiles nord-coréens en direction du Japon ont accéléré le processus. Les États-Unis ont commencé cette nuit à déployer leur bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud. Une mesure vue d'un très mauvais œil par les autorités chinoises qui le considèrent comme une atteinte à leur sécurité. Les forces irakiennes poursuivent leur progression à Mossoul après la reconquête fin janvier des quartiers est de la deuxième ville du pays. Elles ont entamé, ces forces irakiennes, depuis la mi-février, une vaste opération opération pour reprendre l'ouest de la commune, dernier bastion de l'État islamique. Une opération qui porte visiblement ses fruits puisque les forces irakiennes annoncent avoir repris le siège du gouvernement provincial et un deuxième pont. Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire. Ce dernier entrera en vigueur le 16 mars. C'est une version remaniée du tristement fameux décret migratoire qui a été suspendu par la justice. Si les ressortissants irakiens ne sont plus concernés par ce nouveau texte, en revanche, ceux de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Yémen sont toujours ciblés par l'interdiction d'entrer sur le territoire américain, à l'exception, et ça c'est nouveau aussi, des détenteurs de visas et de cartes vertes. Que de grèves aujourd'hui, grève des agents de Pôle emploi et des contrôleurs aériens pour la seconde journée consécutive, grève du personnel au sol d'Air France pour peser sur les négociations salariales qui s'ouvrent aujourd'hui, grève également des salariés du secteur de l'énergie, ils réclament une augmentation de salaire, cela pourrait se traduire dans la collecte des déchets de plusieurs villes, dont Paris, et puis grève aussi aujourd'hui des salariés du secteur de la santé, du public comme du privé, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. On annonce beaucoup de manifestations sur l'ensemble du pays, notamment à Paris. Le cortège quittera la place d'Enfer Rochereau à 13h. Est-ce la fin de la crise chez les Républicains ? Le comité politique du mouvement a renouvelé hier soir à l'unanimité son soutien à François Fillon. C'est un tournant de plus dans la campagne du candidat de la droite. Hier matin, Alain Juppé avait redit qu'il ne fallait pas compter sur lui pour jouer au plan B. Les partisans d'Alain Juppé ont prévu de se réunir ce matin au Sénat autour de Jean-Pierre Raffarin. IDTGV, c'est bientôt fini. La filiale de la SNCF devrait arrêter son activité de transporteur à la fin de l'année. Créée en 2004, cette filiale vend des billets uniquement sur Internet à destination de villes essentiellement touristiques, implantées en bord de mer ou à la montagne, soit une cinquantaine de destinations et une trentaine d'IDTGV circulent au quotidien. C'est 4% de l'offre TGV général. Scénario macabre pour un héritage mal réparti, disparu depuis la mi-février. Le couple Troadec et leurs deux enfants auraient donc été assassinés par l'ex-beau-frère du père de famille. Ce dernier a avoué, il a été écroué. Plus de 200 000 foyers restent privés d'électricité ce matin. La tempête Zeus qui a traversé la France hier a provoqué de gros dégâts et surtout la mort de deux personnes. Imaginez, et on va terminer là-dessus, un iceberg de 5000 km², soit 50 fois la taille de Paris ou la dimension du Jura, si ça vous parle plus. Ça pourrait bien arriver et plus vite qu'on ne le croit. Il y a plusieurs années, des scientifiques ont observé une fissure en Antarctique. Une fissure qui s'élargissait lentement, chaque année un peu plus. Seulement voilà, le processus s'est brutalement accéléré ces dernières semaines. La fracture s'étend désormais sur 80 km et il ne reste plus que 20 km avant que l'étendue ne se détache. On ne sait pas si le phénomène est dû au réchauffement climatique, on le suppose. Si le morceau de banquise se détache, il pourrait être l'un des plus gros jamais vus dérivant à la surface des océans.
Merci, merci Thierry Paret. Je suis toujours avec Roué Anmar, ces deux journalistes, l'un iranien, l'autre syrienne, qui sont invités dans le Libé des réfugiés pour ce numéro spécial. Alors, restez avec moi, on est dans la rue avec Jacques souvent, là. Écoutez, Anmar.
Oui.
Jacques, vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous raccrochez, vous avez raccroché 11 fois.
Mais dites donc, nous on a fait une émission de radio à deux, là, on a tout enregistré.
Donc vous m'avez dit, enfin je rencontre Cynthia Fleury, la philosophe psychanalyste, mon idole. Ça fait une heure et demie que vous ne la rencontrez pas.
Bah si, ça fait une heure et demie qu'on se rencontre, mais voilà, on aimerait bien faire profiter les auditeurs.
Eh ben alors,
si on arrive, on ouvre la porte.
Venez là pendant ce temps-là. Anmar, vous allez écouter la météo flamenco de Tito, vous allez me dire si ça vous évoque des choses que vous avez connues chez vous.
Alors aujourd'hui, eh bien, figurez-vous que sur la côte méditerranéenne, il fait beau, mais qu'ailleurs, partout, il pleut. Alors, les températures sont de Beauvais, de 4 à 11, Boulogne-sur-Mer, de 6 à 8, Brest, de 9 à 11, Dreux, de 6 à 12, Laval, de 8 à 11, Marseille, de 4 à 14, Metz, de 2 à 9, on accélère, Paris, de 6 à 11, Poitiers, de 7 à 11, 7 de 9 à 11, et Vienne, de 2 à 11, et Tokyo, de 3 à 10.
Anmar, ça vous évoque quoi cette musique?
Gypsy Kings.
Gypsy Kings, voilà comment vous êtes vu en Syrie, mon vieux. Merci Anmar. Et vous, où en êtes?
Ça m'évoque les week-ends qu'on allait avec des amis, on sortait dans les montagnes, il y avait de la guitare, on chantait, et voilà, l'amitié.
Voilà, l'amitié iranienne et les Gypsy Kings syriens. Merci, merci les
amis. Dans Syrie, il y a une Gypsy Kings.
Bon, alors ça va. Merci.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
Des génériques, des trucs, des pubs. Bonjour, Cyril Aouizrat, on vous a présenté vestimentairement tout à l'heure. Mais on n'a pas raconté ce que vous faisiez. Vous êtes quoi, un agitateur urbain? J'aime bien les mots comme ça.
J'aime bien, oui, c'est, on peut dire.
Vous inventez, alors entre autres, vous avez inventé des hôtels. Vous êtes à l'origine de ces hôtels Mama Shelter qui sont essaimés à travers le monde. Et là, vous êtes à la base d'un nouveau projet qui s'appelle Mob Hotel.
Absolument.
Le premier né ces jours-ci à Saint-Ouen. C'est quoi Mob Hotel?
J'ai envie de dire que c'est
un peu un point d'intersection entre une partie de ma vie qui était fondée sur la philosophie, puisque ça m'a occupé, je dirais, les 10 premières années de ma vie de post-adolescent, et mon métier d'entrepreneur en créant effectivement dans une première partie les Mama Shelter et Mob Hotel, qui est aujourd'hui plutôt un mouvement d'ailleurs.
Pour le moment, vous ne m'avez pas donné envie de prendre une chambre à Mob Hotel.
Mais c'est fait exprès. C'est à peu près l'objectif de la fin de ma vie. C'est de créer des projets sans jamais avoir un client à l'intérieur.
Alors, comme appliqué à l'hôtellerie, votre formation de philosophe, ça donne quoi?
C'est une mission d'accueillir sur une réflexion qui est de définir le partage comme étant finalement la base même de Mob Hotel, à savoir tout le travail que j'ai fait pendant 5 ans là aujourd'hui avec des coopératives agricoles par exemple, qui a été mon travail essentiel, qui vont être finalement le restaurant de Mob Hotel. Il y a un travail culturel qui est fait également depuis 2 ans avec un cinéma en plein air, avec toute une programmation musicale, des conférences, un festival qu'on organise en novembre sur l'Europe. Donc vraiment l'idée de Mob Hotel, c'est vraiment non seulement une porosité très forte avec le quartier où nous nous implantons aujourd'hui, qui est à Saint-Ouen, qui est une ville qui, au niveau associatif, est extrêmement dynamique, et à la fois de faire émerger dans Mob Hotel, qui est un peu comme un motel urbain, quand vous viendrez, vous verrez.
On vient pas que dormir,
ça.
Alors, c'est ça?
Ah non, oui. On vient écouter des intellectuels, des musiciens, des poètes, voir des films. On a un immense cinéma en plein air qui est à l'intérieur même de ce jardin exceptionnel, un peu andalou finalement, qu'on a réussi à créer. C'est le plus bel hôtel du monde, je vais vous le dire très simplement.
On peut dormir quand même, se laver, il y a eau chaude, eau froide.
Je vais vous dire, les deux mamelles de ma chambre sont vraiment un lit qui est un lit de palace. Et donc vraiment dans les chambres à Paris à 3000 euros, nous avons exactement le même lit. À 89 euros, à partir de 89 euros. Mais au-delà du prix, on a donc ce lit absolument fantastique. Il y a un théâtre aux nombres chinoises que nous avons créé. J'en dis pas plus parce que c'est d'une finesse.
Mais ça a l'air très simple. Mais parlez-moi de l'eau, parlez-moi de la douche, parlez-moi de ce que j'attends. Vous ne voulez pas que je me lave, que je dorme?
Non, mais si, vous pouvez vous laver, mais après quand même avoir eu un moment avec cette ombre chinoise, vous allez voir derrière votre lit, qui est absolument sublime. Un wifi, alors, parce que c'est quand même l'enfer.
Il paraît qu'il y a un niveau de wifi qui n'a rien à voir.
Un wifi, alors je vais dire le mot, parce que c'est c'est un wifi absolument exceptionnel. Je garantis aux architectes, même qui travaillent sur des logiciels hyper perfectionnés, qui pourront travailler dans leur chambre. Et voilà, et
l'eau chaude est exceptionnelle aussi.
L'eau chaude est exceptionnellement chaude,
mais pas trop.
Je vais vous dire, c'est le plus bel. Non, mais honnêtement, très sérieux.
Moi, ça me va, François Rollin, ça vous va?
Oui, je voudrais juste savoir pourquoi ça s'appelle Mob.
Vous avez raison.
Alors, si vous voulez, Mob. Alors, c'est un. Vous savez que Mob Hotel ouvre également aux États-Unis, là, à Washington. Mob, vous le savez, c'est un peu la foule en mouvement. Et comme nous voulons défendre l'idée que Mob Hotel est un mouvement, que je vais ensuite développer, d'ailleurs, j'ai entendu parler de coopérative tout à l'heure à la revue de presse, c'est un hôtel que je veux développer ensuite en coopérative.
Cynthia Fleury, vous venez d'arriver avec Jacques Souvent de la rue, hein, psychanalyste et philosophe. Au départ, un hôtel, c'est un endroit où on voulait dormir, se laver, être au chaud, et ça devient maintenant tout un monde qu'on vous propose, c'est un phénomène d'époque?
Oui, c'est un phénomène d'époque. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est censé être un espace privé. Et ça devient un espace public. C'est-à-dire qu'indépendamment du prix, moi je suis allée au Mama Shelter. Vous avez une possibilité d'y accéder. Désolée de vous redire ça, mais sans rien payer du tout. C'est-à-dire qu'on vient s'installer, on vient travailler, on vient partager quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est intéressant.
Alors il y a des chambres. Les chambres de François Rollin est un lieu public aussi, puisque vous y accueillez beaucoup de monde. C'est un autre débat. Privé, public, donc c'est plus des endroits qui sont en dehors de la ville.
Voilà, c'est plus des endroits clos sur eux-mêmes, c'est des endroits qui sont en partage. Mais pourquoi? Parce que l'espace public, pendant longtemps, s'est aussi fait capter par la privatisation, l'argent, l'économie, etc. Donc, qu'il y ait un juste retour des choses, moi je trouve ça pas mal.
Ça vous va?
Ça me va très bien.
J'ai l'impression que tout le monde va un peu à tout le monde ce matin. François Rollin, vous faites faire votre jeu de test de personnalité?
Oui, quand vous voulez.
Et bien, tout de suite après de la musique qui nous permet de ça aille moins bien.
8h46, qui sommes-nous ? Le savons-nous nous-mêmes ? Grâce à François Rollin, apprenez à mieux vous connaître. Pouvez-vous sortir, Cynthia, du générique de François Rollin ? François Rollin, vous proposez aujourd'hui aux auditeurs, sans augmentation du prix d'écoute, un test de personnalité.
Un test de personnalité.
Les gens n'auront pas envoyé de l'argent à Radio Nova.
Non. Voilà, c'est un test qui va leur permettre de se mieux connaître. Chacun peut et doit jouer dans l'intimité de son fort intérieur. Alors, le thème de ce test ce matin, c'est « Êtes-vous homophobe ?» Il y a trois questions, avec chaque fois deux réponses possibles, A ou B. Jusqu'ici, ça va, Edouard ?
Oui, ça va.
Alors, première question. Au bureau, on vous présente un ami en vous précisant qu'il est homosexuel. A, vous lui dites bonjour normalement. B, vous lui crachez à la gueule en criant « Sale tarlouse, je veux ta mort, tu me dégoûtes, tu es le diable ».
D'accord, hein, effectivement, ce sont deux options très différentes. Hein,
deuxième question, vous passez 15 jours dans un club de vacances haut de gamme en Guadeloupe. Vous apprenez que l'occupant du bungalow voisin est homosexuel. A, vous poursuivez vos vacances normalement en profitant à fond des activités ski nautiques et tir à l'arc. B, vous mettez le feu au bungalow du sale pédé après avoir verrouillé sa porte et vous attendez impatiemment de pouvoir danser sur la dépouille calcinée de la tapette en chantant « Tu as ton compte, petite fiotte » sur l'air de « Maréchal, nous voilà ». Troisième question. Selon vous, manger des fruits au petit déjeuner est A, vivement conseillé, B, proprement ridicule. Alors les résultats du test, maintenant, si vous avez répondu trois fois A, votre cas n'appelle aucun commentaire, vous êtes ce qu'on appelle assez normal. Si vous avez répondu trois fois B, en revanche, vous devriez vous poser des questions et peut-être consulter un spécialiste, car votre défiance à l'égard des fruits n'est pas très normale.
Sans commentaire, merci. Merci François Rollin pour ce jeu. Cynthia Fleury, c'est à travers le jeu, je crois qu'on peut vraiment arriver à faire passer des idées, faire progresser la société. Est-ce que vous pensez que le jeu de François Rollin a permis de plus nous ouvrir et plus nous accepter les uns les autres ?
Bien sûr.
Le mec qui botte en touche après.
Non, j'ai trouvé que c'était en tout cas très parlant.
Oui.
Hein, c'était de fait, je pense que ceux qui ont choisi B se doivent de se poser quelques questions.
Il y a des questions à se poser.
Voilà, c'est tout.
Jacques, ça souvent, vous rêviez, et nous aussi, donc d'être avec Cynthia Fleury, vous n'en parlez depuis longtemps. Racontez-nous votre chemin qui vous a amené vers cette femme, cette philosophe.
Oui. Le chemin. Ah non, je vais pas raconter le chemin.
Le chemin intérieur, le chemin spirituel.
Là, je vais vous raconter le chemin. On était place de la Bastille. On était en train de discuter espace public. Et je sais pas si vous avez remarqué, place de la Bastille qui est plus un rond-point d'ailleurs pour les voitures qu'une place publique. Il y a la colonne et le génie de la liberté qui est en haut. Et aujourd'hui, ça sert de support publicitaire. Donc, on était en train d'observer vraiment l'espace public, ce qu'il raconte aujourd'hui. Peut-être c'est un support à un inconscient, super capitaliste, super dans un discours très dans la servitude.
Alors, Cynthia, c'est l'un des travaux que vous avez menés, c'est l'une des recherches que vous faites, espace privé, espace public.
Alors, une des recherches que je fais, c'est sur le lien entre individuation et état de droit. Ça veut dire quoi? Tout simplement la place de l'individu et comment l'engagement citoyen, mais l'engagement aussi de la singularité individuelle, vient nourrir la démocratie. Donc, ça passe par effectivement la réappropriation des espaces publics. Vous notez tous que les mouvements sociaux très souvent se réaccaparent les espaces publics qui ont été, on va dire, effectivement un peu confisqués, et pas simplement confisqués par la publicité, parce que ça, somme toute, c'est pas si grave, surtout que c'est très souvent la publicité qui finance la restauration des espaces publics, mais confisqués par les voitures, confisqués par l'urgence de nos vies, qui fait qu'aujourd'hui, un espace public, c'est rien, c'est quelque chose qu'on traverse et pas qu'on investit. Donc, tous les phénomènes, les tiers-lieux, Nuit Debout, etc., c'est Occupy Wall Street, Occupy Gezi, etc., c'est véritablement des moments de... Voilà comment on habite le monde à plusieurs et comment on fait que cet espace public soit un lieu de transformation de nos vies.
Alors comment faire justement pour arriver à se croiser physiquement encore aujourd'hui, où de plus en plus on est séparés? On s'aperçoit que dans la plupart des immeubles qu'on construit, il n'y a pas de commerce au rez-de-chaussée, que les gens sont séparés financièrement, culturellement, enfin que c'est de plus en plus difficile de croiser des gens différents de soi dans l'espace public.
Mais c'est vrai, parce qu'ils ont été construits aussi, on est encore, vous savez, dans ce vieux rêve de la charte d'Athènes, c'est-à-dire les espaces hyper fonctionnels. Il y a un espace qui est dédié au travail, il y a un espace qui est dédié à la circulation, etc. L'espace public, normalement, c'est précisément l'inverse de ça, c'est-à-dire un espace que vous pouvez inventer. Vous ne savez pas encore ce que vous allez rencontrer, mais il y a un inédit, quelque chose qui peut transformer. Vous allez rencontrer l'amour, par exemple, dans l'espace public. Vous allez rencontrer une opportunité, et c'est ça. Donc, comment on fait? On crée des tiers-lieux, on investit les dents creuses. Vous savez ce que c'est que les dents creuses? C'est tous ces espaces, comme ça, qui sont en friche. Et on en fait quelque chose. J'étais à Budapest récemment. Vous avez une quantité de lieux qui sont en ruine. Qu'est-ce qu'a fait la société civile? Elle a fait ce qu'elle appelle des bars de ruines. C'est-à-dire, elle réinvestit ses ruines avec très peu d'argent, mais voilà. Et tout d'un coup, dans l'espace-temps du réaménagement de ce lieu, on fait un bar, on fait quelque chose en partage, on fait éventuellement un lieu de conférence. Vous avez la même chose à Saint-Vincent-de-Paul, vous avez la même chose au Batignolles, vous avez la même chose dans les Fab Labs. C'est-à-dire, tout d'un coup, la société civile qui refuse, encore une fois, d'être exclue systématiquement de l'espace public.
Alors vous croyez que ça vient de quoi? Qu'il y a une sorte de quelque chose de quasi animal chez nous qui fait qu'on a envie de se croiser quand même? Par exemple, le fait qu'il y ait encore des salles de spectacle alors qu'on a tous les spectacles sur un écran à la maison, ça viendrait de là aussi?
Alors, oui, c'est intéressant de trouver que c'est une pulsion animale.
Non, mais dans le bon sens. Non, je dis dans le bon sens. Animal dans le sens humain, dans le sens physique.
Au sens où la première animalité de l'homme, c'est la culture, oui, sans doute. Notre pulsion culturelle, notre envie de partager le langage, l'amour des belles choses, la joie, la musique, fait que, d'abord, nous sommes un être humain et par ailleurs, nous sommes une société. Ce qui est de fait, alors que très souvent, voilà, on rentre de plus en plus dans des vies qui sont atomisées, qui sont isolées. Là, au contraire, c'est de se dire, tiens, on va peut-être pas faire un récit collectif comme on a fait jadis, c'est-à-dire unifié, unilatéral, etc. Mais on va au moins fabriquer des récits collectifs qui peuvent cohabiter. Et ça, aujourd'hui, c'est notre aventure à nous de la démocratie actuelle.
Parce qu'il y a quand même un risque qu'on finisse par mener cette vie où on sort de chez soi que pour aller au mall.
Il y a un très grand risque d'être sur un pilotage automatique de nos vies, de faire essentiellement des choses rentables. Bientôt, vous savez, nous allons utiliser la réalité augmentée pour travailler la nuit. Parce que ce temps de sommeil inexploité, c'est pas possible. Il faut absolument utiliser ce temps de sommeil pour apprendre quantité de choses. Je dis ça, c'est une caricature, mais c'est pas tout à fait une caricature. On est dans un monde qui veut absolument que chaque espace-temps soit utilitaire, soit efficace, soit rentable, soit fécond, non pas en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs. Donc ça, c'est... Voilà. Alors nous, on s'est rencontrés aussi à l'Hôtel Dieu.
Oui. Sous l'urgence, oui.
Voilà un autre type d'espace public. Au départ, donc, un hôpital, tout sauf un espace public qu'on a envie de traverser, parce qu'on estime qu'on y va quand on est malade. On a précisément créé la chaire de philosophie à l'hôpital pour faire que les patients, les malades, les citoyens lambda, etc., redécouvrent l'hôpital comme un bien commun, comme quelque chose qu'ils ont en partage, comme quelque chose qui est constitutif de la cité. Et donc, il y avait une conférence, je ne sais plus sur
quoi.
Oui, c'était pas une conférence, ouais, d'ailleurs. Un
c'était
cours.
Étonnant. C'était donc, on allait à une conférence et en fin de compte, en définitive, on croise un brancard avec quelqu'un de malade qui traverse notre chemin avant de se rendre à cette conférence. Et ça, on est vraiment dans le concret de l'urgence. Et ça, c'était très intéressant dans la conférence, c'est que l'urgence fait l'importance aujourd'hui et l'urgence, en réalité, est un fait. Voilà.
Bah, disons que on voit très très bien le retournement qui se fait aujourd'hui, c'est que l'urgence devient le mode naturalisé des humains au temps, alors que normalement, l'important devrait être l'urgent et pas à l'inverse. Donc on est dans des travestissements. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, on a parlé, je crois, ce jour-là, de ce qu'on appelle la psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire tout le moment où, et Dieu sait si hélas, Bataclan, Charlie, etc., les premiers soins qui arrivent, c'est issu de la thérapie militaire, et c'est ce qui va ensuite traiter ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie de l'avant, et donc c'est une clinique qui vient tout de suite faire quoi ? Faire lien, dans les premiers temps, parce que vous êtes souvent dans des phénomènes de sidération, des phénomènes éventuellement d'agitation hystérique dingue. Vous allez rentrer petit à petit dans un trauma et donc on essaye dès le début de contrer, d'empêcher cette façon d'être englué dans le trauma pendant très longtemps.
Alors attendez, vous me faites des signes armels, parce que moi je voulais revenir avec vous sur l'histoire de l'espace
public. Une minute.
Ah oui, dis donc, bah là il faut que vous reveniez parce que là vous êtes resté beaucoup trop peu. Mais alors vous êtes parti là-dessus, moi j'étais intéressé aussi par l'espace public, par les centres-villes. Par exemple, on s'aperçoit que la plupart qu'il y a un lien entre la désertification des centres-villes et les votes extrêmes, c'est-à-dire et la peur qui monte. Comment on peut lutter contre ça ?
Comment on peut, en baissant les loyers ?
Oui, ben voilà.
C'est très simple.
Mais je crois que plus on est isolé à la campagne, plus on a peur de l'autre. Donc en fait,
de gens vrais.
Oui, les villes créent plus de liens que la campagne, ça c'est sûr.
Mais vous étiez sur le. Alors là, vous étiez parti sur l'urgence et le.
On avait plein de trucs à dire.
Mais non, mais c'est formidable parce que même si ça va si vite, c'est d'un niveau. Qu'est-ce que vous me notez ? Oui, alors une minute de quoi ? C'est parce qu'il y a la pub, c'est ça ?
C'est la fin de l'émission, Edouard.
Ah non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est terrible d'avoir quelqu'un avec qui on a envie de poser 10 000 questions. Bon, Cynthia Fleury, jurez-moi que vous revenez et que vous ne nous en voulez pas de ce peu de temps qu'on a passé avec vous.
Il n'y a aucun souci. On a même rendez-vous, je crois, au Mob Hotel, tous.
Oui,
j'ai bien compris.
Mais merci à tous d'être là. Comme ça, je rends l'antenne avant la pub. Comme ça, on dira que c'est la pub des 30 Glorieuses. Je voudrais rendre hommage à Claudine Maugendre, qui sera enterrée aujourd'hui à Auxerre, qui est une amie de la maison de Radio Nova, d'Actuel et de moi, et de beaucoup de gens. Salut François Rollin, Armel, Eugénie,
salut,
Tito,
salut.
Jacques, Cynthia Fleury, on continue la conversation hors antenne, comme on dit. Merci. Oh là là, oh là là.